Pia, on a un problème. Notre émission est un truc de crypto geek. On n'a même pas expliqué à nos auditeurs ce que voulait dire Jarvis, étant donné qu'on a parlé de l'ère de Jarvis. Et ils ne savent toujours pas ce que c'est. Donc, c'est pas cette voix un peu ringarde dans Iron Man ?
Alors, elle n'est pas ringarde. Je pense que si tu dis qu'elle est ringarde, c'est que Jarvis, donc, qui est l'assistant vocal du personnage Tony Stark dans Iron Man, a en fait un accent britannique, qui te fait peut-être dire que voilà, il est un peu out of date, on va dire en anglais également. Mais Jarvis est en fait tout à fait central dans la fiction Iron Man. Alors, je parlerai peut-être plutôt des films, je ne vais pas me lancer dans les comic books, parce que là, je vois Deathcritch qui me fait d'énormes gros yeux, mais non.
Non, non, ce n'est pas d'énormes gros yeux, c'est qu'effectivement, Jarvis était censé être le majordome du père de Tony Stark, mais c'est aussi c'est une référence à un autre Jarvis d'un comics des années 30, donc je sais plus lequel exactement. Ça c'est mon gros regret. J'ai pas assez bossé sur le coup.
Mais alors du coup, Jarvis, qu'est fait Jarvis pour Tony Stark? Il l'aide, il lui fait des blagues, il le réconforte, il lui fait des calculs très puissants pour l'aider à constituer son costume de métal. Et en même temps, en termes de fiction, parce qu'en design, on s'intéresse toujours à ce que fait la fiction et comment elle peut éventuellement aider à démocratiser certains usages, bah, c'est vraiment cette idée de naturaliser les échanges vocaux entre l'humain et la machine. Seulement, moi, il y a un truc qui m'arrête. Alors vraiment, aujourd'hui, je suis sur des questions politiques qui, moi, me semblent centrales à l'époque. On se rend compte qu'il y a des logiques classistes dans la représentation des assistants de Tony Stark. Donc Jarvis, donc, qui n'est qu'une voix, hein, je répète, c'est vraiment l'assistant vocal de Tony. C'est le majordome anglais, type Alfred, donc certes qui est majordome, mais qui est quand même assez distingué et éduqué. Et il y a un autre personnage...
Il n'est pas tout seul.
Et voilà, il n'est pas tout seul. Il y a un autre personnage qu'on oublie tout le temps, qui s'appelle Butterfingers. Donc en gros, je ne sais même pas comment on pourrait traduire, quoi... des pattes maladroites, quoi. Et en gros, tout lui glisse des mains. Et en fait, c'est un assistant qui, lui, est un bras électronique, donc qui ressemble vraiment beaucoup au bras électronique qu'on voit dans l'industrie automobile.
Ce qu'elle appelle un bras électronique, c'est un 6-axis. C'est un robot industriel, voilà.
Oui, si vous voulez. Non, mais ça prend la forme d'un bras, donc ça, symboliquement, c'est une partie de corps. Et Butterfingers est complètement exécutant, en fait. Et il obéit très mal, il se fait tout le temps disputer d'ailleurs par Stark aux ordres, mais lui n'a pas de voix.
Ouais, c'est ça, en fait, le bras qui renvoie à l'usine, donc au labeur, ou en tout cas à l'ouvrier, il vaut silence.
Bah, les assistants personnels vocaux, du coup, dans cette fiction-là, semblent réaffirmer des lignes de partage corps-esprit, donc des logiques de classe. Et moi, je me pose toujours la question, vous allez me trouver un peu monotraque aujourd'hui, mais des questions de race, parce que Jarvis est très clairement un homme blanc, on le comprend avec l'accent.
Des races pour des robots ?
Si tu veux, symboliquement, quand même, on trouve bien ces dynamiques-là. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Butterfingers représente un assistant noir, mais enfin, quand même, la question se pose entre la voix british et éduquée et ce bras mécanique qui n'a pas de voix et qui, comme tu l'as dit très bien, voué au silence.
Ça, c'est une vieille histoire, ça date des années 50, jusque justement, il y avait des super-héros qui avaient des assistants qui étaient noirs ou des seconds qui étaient noirs. Ça a été très, 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 très mal vécu. Et donc, dans les années 60, ils ont tout. Ils ont rebalancé vers des assistants anglais.
Ouais, mais c'est pas pour ça que justement le naturel revient pas au galop ou que inconsciemment il y a pas ces logiques là qui reviennent. Mais alors des logiques de classe vraiment puantes, si j'ose dire. Anthony, on a trouvé un exemple assez génial et très parlant.
Good morning, Jarvis.
Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees.
Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do.
Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her.
All right, let's go check on her.
Je trouve ça, mais insupportable. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Morgan Freeman. Donc, c'est un acteur afro-américain. Qui là en fait prend la voix de l'assistant vocal de Mark Zuckerberg filmé chez lui. Enfin, Anthony, tu veux peut-être un peu décrire la vidéo.
Ouais, on va arrêter avec les logiques raciales, même si c'est important. Mais pour nos auditeurs, alors c'est Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui en tout cas prétend avoir codé son Jarvis, son assistant personnel, son super assistant pour sa maison depuis qu'il est papa, tout simplement pour gérer son bébé, accessoirement sa femme, on ne sait pas trop. Enfin, oui, en fait, on le sait, il le dit en fait à un journaliste de Fast Company. L'algorithme reconnaît les meilleurs morceaux comme sa femme et donc elle est plus heureuse grâce à Jarvis. Et donc, alors on peut voir ça de plein de façons, effectivement, la logique raciale avec Morgan Freeman. Mais en tout cas, niveau des fonctions, bah, ça reste finalement assez standardisé. Il peut faire ses toasts le matin, ça ferme les rideaux, ça reconnaît qui sonne à sa porte. Et puis, alors forcément, comme il est à la tête d'une entreprise qui prétend avoir près de 2 milliards d'utilisateurs, bah, le fait que le fondateur historique soit encore capable de coder en 150 heures un super programme, c'est aussi une grosse crédibilité dans la communauté développeurs geek. Donc, il faut aussi le voir comme ça.
Je ne peux pas m'empêcher, moi, quand même, malgré tout ça, de trouver ça très désagréable. Alors, la défense, si l'on peut dire, de Zuckerberg, c'est de dire que Freeman est une forte figure masculine, voilà, imposante. Alors bon, ça pose déjà plein de problèmes. Mais enfin, avoir quand même une personne afro-descendante qui fait la voix d'un majordome qui s'occupe de tout dans la maison, quand en plus cette voix, c'est celle d'un acteur qui a joué à l'époque dans Miss Daisy et son chauffeur, qui est un exemple terrible de racisme, on va dire, adouci et du syndrome de l'oncle Tom, alors vraiment, mais rendu lisse.
Toi, t'as vu qu'un quart du film, alors.
Ah non, je t'assure. Non, c'est
après,
mais c'est pas moi qui le dis, là, je cite des personnes qui en plus sont afro-descendantes et qui critiquent le film de manière très très forte. Enfin, en plus, là, excusez-moi, on n'est que des blancs autour de la table. Donc c'est un peu gênant.
À la radio, ça se voit pas. Gros.
Ça s'entend.
Exactement. Alors justement, en parlant de ça s'entend, ben, Jarvis, c'est aussi l'héritier de tout un tas d'assistants vocaux qui sont déjà présents dans nos smartphones et intérieurs domestiques. Alors, on n'est pas Mark Zuckerberg, on n'a pas son Jarvis, mais on a plein de trucs. On a Apple Siri, depuis 2007, dans nos smartphones iOS. On a Google Now, copié par Google en 2012. Et Microsoft, toujours dernier, en 2014.
Faux. Microsoft avait commercialisé en 99 un service d'assistant vocal qui se pluguait sur ton abonnement Bouygues Télécom et qui écoutait l'ensemble de la conversation et qui, à la fin d'une conversation, te disait « Est-ce que je vous note dans votre agenda tel rendez-vous ?» Elle avait reconnaissé à la volée en fait les rendez-vous dans les conversations téléphoniques. C'était assez bluffant.
Génial.
En même temps, la liste d'Anthony, alors bon, après, on peut un peu comparer les datations, mais ta liste s'arrête en 2014. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une liste de tous les services, parce que j'ai noté qu'on avait Alexa, Dash, Echo. Je m'en sors plus. Là, j'ai lâché l'affaire. C'est même pas que ça va trop vite, c'est que tout se ressemble. En plus,
c'est ça. Là, on bascule dans la galaxie Amazon et les objets Gremlins qui se multiplient. J'ai fait une petite liste. Alors, il y a Alexa, donc, qui est la voix d'Amazon, enfin, l'assistant personnel intelligent, comme ils disent, avec des guillemets. 2014, Amazon Dash. Alors, Pia, c'est ces petits dispositifs Wi-Fi, c'est les sortes de boutons qu'on scotche sur le frigo et qui permettent en un clic de recommander donc sur son compte Amazon Prime, donc on se fait livrer dans l'heure, enfin ça dépend où on habite, du PQ, des courses, ou des bouquins,
c'est ça que j'allais oublier,
que sais-je.
PQ. Oui, merci.
Et donc voilà, donc en gros ça permet soi-disant à chaque membre de la famille de construire sa liste d'achat ou peut-être de faciliter le travail de la ménagère. Ça en tout cas c'est pas affirmé comme tel, mais peut-être que Pia tu nous reparleras de ces logiques de domesticité et de ménagère. 2014 toujours, Amazon Echo, alors c'est peut-être le produit le plus connu, même si on ne l'a toujours pas en France. C'est cette fameuse enceinte connectée qui embarque donc l'assistant Alexa et qui permet de commander tout ce qu'on veut, de lancer de la musique ou que sais-je. 2016, j'ai bientôt fini, Amazon Echo Dot, donc c'est toujours des petites enceintes, sauf que cette fois c'est plus orienté domotique, on les met dans toutes les pièces pour commander les stores, les lumières, etc., etc.
Moi quand je vois tout ça, je me pose toujours la question de mais ça marche commercialement, les gens ont envie d'avoir ça?
Bah, en France on ne connaît pas, mais les chiffres que j'ai trouvés, en 2016, Amazon a vendu 10 millions d'enceintes connectées. Alors, c'est les chiffres aux États-Unis, Angleterre et Allemagne confondus. C'était le premier objet vendu sur Amazon. Donc, ce n'est pas un objet de niche, comme peut-être le Kindle
c'est,
ou encore
c'est
pire.
C'est surtout que ce n'est pas cher.
Les tablettes Kindle. Oui, c'est ça. C'est $100 si on a le compte Amazon Prime. Donc,
Je crois que le plus cher, c'est celui qu'Apple a annoncé la semaine dernière.
Ouais, exactement. On va en parler. Apple qui arrive un petit peu après la bagarre. Amazon Tap, bon, je passe. Echo Look, dont Pia parlera. C'est assez intéressant. Mm. C'est une caméra connectée qui permet de dire si on a... des jolis vêtements ou pas, on en reparlera.
Ouais, j'en reparlerai après. Alors là, j'ai fait la partie, on va dire, structure raciale. Je ferai une petite partie structure de genre plus tard. Là, il me semble quand même que dans ta petite liste, on a juste balayé des productions Amazon, mais enfin, ils sont pas les seuls.
Ouais, bah en fait, j'ai prévu d'acheter des actions GAFA, donc c'est pour ça que je suis un peu de pub.
C'est parce que t'es dégoûté de pas avoir acheté des bitcoins à temps, ça.
C'était des Ethers, mais ça vient de chuter, donc je vais pouvoir en acheter.
Ah.
Alors, du coup, Apple arrive là très récemment, en juin 2017, Apple annonce le HomePod, donc c'est toujours une enceinte, alors cette fois reliée à Siri, évidemment, pas à Alexa, qui permet de lancer de la musique, il y a un peu de domotique, il n'y a pas trop l'idée il y a aussi Domino, que je crois qu'il est partenaire, on peut commander sa pizza. Voilà, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Pia. Ou si
bah, écoute,
est-ce qu'il y a une vie en dehors des GAFA en fait? On va arrêter de parler d'Amazon.
GAFA me ne pas oublier Microsoft, c'est toi qui me le dis systématiquement.
Ouais, en plus, Xavier nous l'a rappelé.
Il y a des acteurs plus marginaux. Alors, marginaux, non, c'est juste que c'est local, c'est Wuzhang. On va en parler quand même, c'était dans le 20 minutes de ce matin. On a une entreprise...
À la date où on enregistre, voilà, lundi, donc 12 juin.
Oui, mais peut-être que dans le 20 minutes de la semaine prochaine aussi, je sais pas, il sera pas passé
beaucoup. Tu nous retrouveras le lien quand on le mettra sur le site cpu.pm, s'il te plaît.
C'est, bah, en même temps, ça date un peu plus longtemps. C'est l'entreprise Téléquid, qui est donc une entreprise toulousaine, qui a inventé un pense-bête intelligent. Donc c'est une sorte, alors je sais pas comment on peut dire, une sorte de petite cellule qu'on place sur
un dictaphone ou un truc
un
comme ça.
Un petit pod, ouais, voilà, qu'on met sur son porte-clés, qui en fait est connecté à son smartphone. Et puis quand on entend une chanson qu'on aime bien, quand on a une espèce d'idée brillante, ou quand on a une conversation avec quelqu'un, on veut prendre une note pour un projet, on s'enregistre sur le petit pod qui rebascule tout ça sur une application sur le téléphone. Donc c'est d'une certaine manière une réplique du dictaphone en fait. Bon après c'est fabriqué localement, on peut quand même saluer ça. Moi j'ai un petit doute, j'ai rien contre ces gens, après ils vont m'attaquer, ils vont m'attendre.
Ils ont signé avec Orange un contrat
sur le parking
déjà,
à la sortie, ouais. Mais juste on peut quand même préciser que c'est fabriqué à Montauban, assemblé à Casse. Bon belle initiative quoi, mais est-ce qu'on a besoin, la question du besoin du côté du design, elle reste entièrement ouverte.
Bon en tant que designer graphique quand même, si tout passe par la voix, est-ce que j'ai encore du travail? Est-ce que ça signe pas une certaine mort du design graphique, toutes ces histoires d'interface vocale, d'enceinte, bye bye quoi, plus de forme, plus d'interface graphique.
Mort de l'interface, voire mort de l'ordinateur, non?
Bah, c'est ce que dit Mossberg, alors un chercheur, dans un article The Disappearing Computer, l'ordinateur invisible ou disparaissant, je sais pas trop, paru dans The Verge en 2017. Il dit qu'on est passé dans l'ère de l'informatique ambiante où du coup tout passe par la voix, tout est fluidifié, plus ou moins invisible.
Bah on avait ça dans Her de Spike Jonze, hein. On parlait de tout à l'heure comment les films naturalisent des usages à venir. Très clairement, les interfaces graphiques sont complètement secondaires ou rétrécies vraiment au strict minimum et tout se passe par la voix.
2014, intéressant le film comme Amazon Echo. Mais attends, ton truc Her que t'adores là, c'est pas un truc de blanc riche.
Mais de toute façon, les apps c'est pour les gens blancs et riches. Hein. Si tu regardes la pub, d'ailleurs c'est assez génial. Si tu regardes toutes les promos ou les démos de ces trucs là en ligne, on te donne des exemples d'activités facilitées par les assistants vocaux. C'est ah bah tiens, on vous rappelle de prendre l'avion. Ah mais attendez, on va commander votre Uber depuis l'aéroport. On va noter votre Airbnb. Là, on est quand même en plein dans des trucs, alors je sais pas, de bobos ou de milléniaux hyper fliqués.
Je vais dire, Pia, ce qu'il faut faire. On va peut-être le faire un jour. Il faudrait faire le Siri du pauvre. Enfin, le Siri qui peut trouver le pôle emploi, commander ton kebab, envoyer 100$ par Western Union en Afrique. Mais je pense que ça marcherait pas, en fait. Siri, ouais, c'est pas gérer ça.
Ça va marcher comme projet de design critique, peut-être. Mais après, il existe quand même des objets accessibles. C'est toi qui me le rappelles souvent. Enfin, on n'est pas entièrement d'accord là-dessus. Mais Amazon n'est pas Apple quand même. Hein. C'est pas le même positionnement.
Ah, c'est que dit Fred Cavazza. En fait, Amazon cible le grand public ou les beaufs, on peut dire ça. Ceux qui achètent des couches, du PQ, qui font leurs courses en ligne pour leur famille, leurs gamins. C'est pas les millennials ou les hippies branchés d'Apple, quoi. Peut-être.
Alors, moi, je voulais parler à ce propos de la Zapette et de Amazon Dash. Je voulais revenir sur ce truc-là. Donc, très rapidement, Amazon Dash, ça prend une forme de télécommande et ça permet deux choses. Quand vous n'avez plus de confiture ou de pâte ou que sais-je, vous scannez en fait votre article ou vous le commandez par la voix. Et ça prend une forme de télécommande. Alors, il y a cet aspect point and click. Ça, pour moi, ça reprend aussi des logiques de gamification complètement. Et ça ressemble quand même beaucoup, il faut bien l'admettre, à un sextoy. Et alors, c'est quand même étonnant de voir débarquer ces modèles de désir ou de forme de plaisir associés à des formes de consommation. Tu fais la grimace d'Astrich, mais je t'assure qu'il y a quand même un paradigme du sextoy qui est en train, alors excusez-moi, de pénétrer les usages grand public.
Bah, en parlant de pénétrer les usages, du coup, c'est peut-être le moment de nous parler de cette caméra écolook, parce qu'il s'agit d'être sexy dans cette histoire.
Ouais, alors la caméra écolook, globalement, on se met devant le matin et la caméra vous dit si en gros vous êtes bien fringué ou non, ou elle vous permet de comparer des tenues. Ah ouais, non, là, tu nous as mis ta plus belle chemise hawaïenne. C'est vraiment.
Avec les beaux temps, j'avais pas une Ferrari.
La caméra bloque ta porte d'entrée, tu restes chez toi, tu restes shut-in, quoi, direct.
Alors, juste pour revenir sur Ecolook, ça pose quand même deux problèmes au moins. Soit on juge de la qualité d'une tenue, on va dire intrinsèque, est-ce que des poids vont avec des rayures, et là, on se demande vraiment comment est fichu l'algorithme pour produire cette typologie de critères esthétiques. Et il y a un second problème, désolé, là, on revient encore sur des logiques de discrimination. En fonction de quoi l'application va-t-elle juger que telle ou telle chose vous va ? C'est-à-dire si elle scanne, s'il y a une reconnaissance faciale, si elle voit que vous êtes noir, que vous êtes gros, que vous êtes invalide, que vous... Alors, je sais pas, mettons même vous êtes une femme trans, si l'application vous lit comme un homme, elle va vous dire non, ne mets pas de robe. Enfin, c'est vraiment très compliqué ces choses-là. Et ça pose des questions de comment sont fichus en fait les algorithmes à l'intérieur et sur quels critères la sélection et la comparaison va se faire.
Ils sont pour les hommes blancs, mais ils sont faits par les hommes blancs, donc à partir de là,
c'est ça, ça, un élément de réponse. Ça fait un peu peur.
Alors bon, je vais là on parle de productivité ou d'être sexy, mais c'est des imaginaires qu'on avait déjà dans des films, hein, ces rêves de la maison connectée, dans Alexandre le Bienheureux de Yves Robert avec Philippe Noiret, 1968. Peut-être un imaginaire plus bucolique de la domotique. On a donc cet agriculteur qui veut en faire le moins possible et qui donc invente tout un ensemble de dispositifs pour depuis son lit boire du vin rouge, il se fait servir de la nourriture par son chien, qui donc est lui un assistant animal et non pas algorithmique.
Mais c'est un vieux rêve, ça. Dans Voilà, c'est gros mythe, on avait ça aussi. Tu sais, c'est le truc où t'as ton lit qui s'incline le matin, tu tombes dans ton pantalon, ton toast arrive comme par magie devant toi. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, c'est associé à la figure du savant fou ou de l'inventeur génial. Mais il y a vraiment cette idée de « punaise, si j'arrivais à ne plus rien faire, quoi, au fond ».
C'est ça, c'est l'imaginaire du toast. Du coup, cet assistant aussi, enfin, ces assistants, dans les films plus récents, mais... malgré tout, antérieur aux usages, comme dans Smart House de Disney, ça, c'était déjà présent, peut-être bien.
Smart House, c'est un film absolument génial. Non, en vérité, il est complètement nul. C'est un téléfilm vraiment pourri, mais qui est super intéressant pour aller très vite.
T'as donc exhumé des vieilles bouses, quand même.
Ouais, bah attends, c'est le travail de recherche, ça, c'est pour la science. C'est une famille avec un papa veuf et ses deux enfants qui gagnent, dans un jeu à la radio d'ailleurs, une maison connectée. Et sauf que il y a quand même cette idée que rien ne remplace une maman. Et l'enfant ado est quand même, je sais plus exactement, mais enfin il est très fâché de cette intelligence domestique qui en plus est produite par une ingénieure qui essaie de sortir avec son papa, donc il est très jaloux. Et il reprogramme l'intelligence artificielle qui était un assistant vocal, mais qui du coup en étant reprogrammé, va se rematérialiser en un hologramme de housewife parfaite des années 50 avec cheveux lisses et petits tabliers. Donc l'intelligence artificielle scanne des milliers d'images des représentations de la housewife pour finalement se matérialiser de cette manière. Et en fait, elle pète un plomb, elle devient surinvestie, étouffante, elle veut tout contrôler, elle interdit aux gens de manger parce qu'il y a trop de calories, elle éteint les lumières de manière autoritaire parce que c'est l'heure d'aller dormir, et ainsi de suite.
Bon, Disney, c'est bien, mais les Simpsons, c'est mieux. Effectivement, il y a un épisode des Simpsons qui reprend un peu cette histoire en version film d'horreur un peu.
Le rêve de la ménagère, ça vous intéresse ?
Oh non, un vendeur robot !
En équipant votre maison d'un Ultra House 3000, vous ne ferez plus aucune tâche ménagère !
Plus de tâches ménagères ?
Tu as vu les rideaux, oui.
Bonjour Ultra House !
Sincère salutation.
Il faudrait personnaliser un peu cette voix.
Oh, essayons Matthew Perry.
Ouais, je suis une vraie petite fée du logis.
Oh nul, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Et je suis mieux équipée qu'une navette spatiale et j'ai pas besoin de compte à rebours pour me lancer sur le boulot.
C'est pas la voix qui a provoqué une vague de suicide ?
De meurtre suivi de suicide !
Eh, hey, pourquoi pas 007 ?
Tu veux dire Sean Connery ?
Non, Pierce Brosnan. Une voix comme la sienne donnerait la touche raffinée qui nous a toujours manqué.
D'accord, mais c'est parce qu'il a joué dans la série Remington Steele. Il était bien Remington Steele ?
Oui, en effet, Marge. Merci de m'avoir choisi.
Je ne sais pas si vous avez reconnu la parodie de l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick de 68. Donc ce point rouge tout puissant. Alors il y a plusieurs théories sur le nom. IBM décalé d'une lettre qui ferait H-A-L. Ou Heuristically Programmed Algorithm Computer. Je ne sais pas si Xavier, tu as la réponse entre ces deux hypothèses.
Je crois que ça c'est plus proche effectivement de vis-à-vis d'IBM.
Donc voilà, donc l'épisode Simpson parodie cet imaginaire tout puissant de la machine qui prend le pouvoir et qui même dans HAL en vient agoniser.
Bah du coup, à l'origine, dans l'Odyssée de l'espace, c'était l'intelligence artificielle qui gérait tout le vaisseau. Mais dans la version des Simpsons, ça devient un assistant domestique, mais qui tombe amoureux de Marge et qui, du coup, va chercher à remplacer Homer et à le tuer. Et ça, on retrouve ça très souvent. On l'avait vu dans Smart House aussi. Hein. À chaque fois, l'intelligence artificielle devient une figure, que ce soit une maman, un amant, un copain, mais qui essaye au final d'exister vraiment et de devenir une vraie personne.
Du coup, la parodie des Simpsons, elle est intéressante parce qu'on retrouve toujours cet œil rouge et finalement, on retombe un peu dans les mêmes tropes, les mêmes topos formels. Il y a une pauvreté des imaginaires formels des objets qui, dans la fiction, quand ils deviennent complètement barges ou marges, deviennent intéressants. Et c'est pareil, finalement, dans le HomePod de Apple, vu de dessus, ça ressemble à HAL, surtout la version noire, sauf que l'œil rouge est tout pastel, en fait, en bleu, violet et vert, parce que c'est Apple, ils vont quand même pas faire un truc trop flippant.
Mais d'ailleurs, cet esprit flippant là, de l'œil de HAL, on le retrouvait dans Terminator. Hein. Donc ça aussi, c'est un imaginaire qui va chercher assez loin et qui est réactivé de plein
non,
de manières.
Non, c'est qu'à l'époque, c'était la seule couleur disponible pour les LED et que c'était ce qui consomme de moins pour les
ouais,
lampes.
Mais ça, c'est une explication factuelle. Mais n'empêche que dans les imaginaires et la symbolique, ça recoupe. Bah forcément, il y a des associations d'images.
Et donc, Panic Room de Fincher aussi, intéressant pour le réseau vidéo, la surveillance, mais peut-être tu peux en parler, Pierre.
Ouais, c'est, alors là, on est plus dans des côtés paranoïaques. Alors, ça va paraître complètement décalé, ce que je vais dire, parce que c'est vrai que Panic Room n'est pas du tout dans des imaginaires de surveillance ou de domotique de l'ère d'Internet. C'est pourtant un film de 2002, mais c'est un film dont la connexion est vraiment lofi. Hein. C'est une connexion de caméras entre elles, il y a des automatismes, mais on n'est pas dans, on va dire, dans des fantasmes de liés à la culture numérique.
Non, c'est plus des fantasmes de super riches, puisque c'est en général ce type de population qui installe cette porte secrète, cette safe room.
Complètement.
Exactement, et c'est réactivé aussi, parce que c'est des riches aussi dans la série Mr. Robot, enfin en tout cas, hackers riches, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à leurs compétences informatiques, et la maison dans cette série, donc Black, de Mr. Robot, dans la deuxième saison, devient complètement folle, les objets sont hackés, ça devient comme un film de Hitchcock, où il y a une symphonie, l'eau devient trop chaude, et la personne ne peut rien débrancher, le personnage dit « Unplug, unplug, non, je ne peux pas, c'est caché derrière le mur ». Et donc elle est totalement prise au piège. Alors peut-être la solution, c'est peut-être de vivre sans ça et de vivre sans cuisine, comme dans ces appartements new-yorkais élitistes dans les années 80 pour ces personnes célibataires.
Ça, c'est aussi un paradigme qu'on a retrouvé dans la fiction, hein. Rappelez-vous dans Sex and the City, désolé, point Sex and the City, Carrie Bradshaw qui disait j'utilise mon four pour le stockage. Mais c'est ancien, voilà, c'est les années 2000. Mais bon, même ton article est encore plus ancien, hein, Anthony, si je ne me trompe.
C'est ça, en fait, on sort jamais de la maison, quoi. Symboliquement, on se replie, on est cloîtré, comme le disait Lawrence Miley. Même quand on va faire son footing, les données arrivent dans la maison. Tout est géré par ça.